Chapitre 8e. Jean se retira dans une grange de la ferme, la nuit étant trop avancée pour qu'il voulût gagner la cabane du bûcheron. À son réveil, Jean parcourut d'un regard prompt et sûr l'étendue du val, et n'y découvrit aucune agitation. Jean respira comme un homme délivré d'un poids énorme. Rien dans l'aspect des campagnes ne semblait indiquer que les menaces de la veille dussent être suivies d'effet. Le braconnier passa son fusil sous son bras et se rendit chez Clairette, qu'il trouva éveillée comme une alouette et fraîche comme une rose dans ses habits de deuil. Madame de Puiseux avait offert à Clairette de la prendre chez elle, mais Clairette avait refusé, dans la crainte d'avoir moins fréquemment l'occasion de rencontrer Jean. Aussitôt qu'elle aperçut le braconnier, Clairette prit son enfant qui se roulait dans l'herbe comme un chevreau et le mit dans les bras de Jean, après quoi ils s'embrassèrent cordialement. « Vous allez déjeuner avec moi, » dit Clairette au braconnier. « J'ai là un gâteau de farine de maïs dont Lou aura sa part, s'il ne culbute pas le petit. »«
Comme tu voudras, Clairette, » répondit Jean.
Si l'on eût demandé pourquoi la veuve disait « vous » au braconnier, tandis que le braconnier lui disait « tu », on eût été fort en peine de répondre. L'une avait perdu cette habitude de l'enfance, l'autre l'avait conservée. C'était, de la part de Jean, une preuve d'amitié mêlée de protection. De la part de Clairette, un témoignage de respect. Pour Jean, Clairette était restée une petite fille, et il faut bien reconnaître que rien, dans l'air de la veuve, ne démentait cette pensée. Le déjeuner de Clairette se composait de lait, de fruits et de quelques tranches de jambon. L'enfant allait en trébuchant de la mère à l'ami, des bras de l'un aux genoux de l'autre, jouant avec le chien et remplissant le jardin de ce doux babil qui ressemble au ramage d'un oiseau. Jamais Clairette ne s'était sentie si heureuse. Le contentement de son cœur éclatait dans son sourire et dans ses yeux. Elle ne savait que faire pour épancher sa joie, allant, revenant, trottant, gazouillant comme une bergeronnette au bord d'un ruisseau. Quelquefois elle s'arrêtait et soupirait, en pensant que ce bonheur, qui pouvait durer toujours, ne durerait qu'un instant. Puis elle se reprenait à rire et à causer doucement. Le malheur avait glissé sur cette âme blanche et fraîche, comme une goutte de pluie sur le calice d'une marguerite. Jean ne pensait plus déjà à l'aventure du charron, lorsque vers midi, une rumeur sourde s'éleva de la plaine. Ce bruit passa d'abord avec les autres bruits, mais ce fut bientôt comme le retentissement de la mer contre une falaise. Jean sauta sur son fusil et s'élança hors du jardinet. Le spectacle qu'il découvrit lui fit bien voir que les menaces du charron n'étaient pas de celles qui naissent avec le dépit et qui passent avec la réflexion. Une masse compacte d'hommes, de femmes et d'enfants arrivait du val par les coteaux. Ce bâtiment sinistre ramassait comme une avalanche tous les travailleurs épars dans les champs. L'un y reconnaissait un frère, l'autre y voyait une femme, et tous, poussés par le fatal instinct du désordre, suivaient le torrent. Toute cette cohue était hérissée de pioches, de fourches, de pieux, de bâtons, au milieu desquels brillaient çà et là quelques fusils. La plupart des paysans marchaient nu-tête et bras nus, chantant, criant, hurlant. Quelquefois aussi, un silence profond s'étendait sur cette foule, et l'on n'entendait plus que le bruit sourd des pas qui piétinaient la terre. Puis, tout à coup, un grand cri s'élevait au milieu de la foule. « Du pain ! Du pain !» répétait-elle. La ligne que suivaient les émeutiers indiquait assez qu'ils se dirigeaient vers le château de Rocheblanche. Mais avant d'y parvenir, ils devaient passer par la ferme des Bordes. Jean reconnut du premier coup d'œil l'étendue et l'imminence du danger. Il se tourna vers Clairette qui, pâle de terreur, se pressait à ses côtés. « Prends le petit, » lui dit-il, « et cours au château. Tu diras, monsieur de Puiseux, ce que tu as vu. Va !» Clairette saisit l'enfant dans ses bras et se jeta à travers champs. Jean, assuré qu'elle serait au château avant même que les assaillants fussent arrivés aux Bordes, marcha rapidement vers la ferme. C'était le moment où les ouvriers prenaient leur repas. Ils avaient entendu la rumeur qui s'élevait du val, mais ils ne s'en inquiétaient point. « Antoine, » dit Jean, en attirant son frère de côté, « voici les gars qui viennent. Les entends-tu? Ils sont ici dans 5 minutes. »«
Eh bien, as-tu peur? Nous n'avons fait de mal à personne, » dit le fermier. « Ils passeront. »
Jean poussa le volet d'une fenêtre et lui montra la colonne qui s'avançait en grondant. « Ils demandent du pain. Tu leur en donneras, » reprit-il. « Je n'en ai jamais refusé à personne, » répondit Antoine. « Peut-être vaudront-ils du vin, peut-être aussi de l'argent. Ah, par exemple, ils n'en auront pas. Ils en prendront. Oh, j'ai mon fusil.
Jean saisit avec force la main de son frère. Tu veux donc qu'il te tue, et tous les gens de la ferme avec toi ?
Il ne sera pas dit que je me serai laissé voler, reprit le fermier têtu.
Livre-leur tout, tout, il le faut !
S'écria Jean, qui regardait la foule montant comme le flot.
Ne vois-tu pas qu'ils vont au château ? Retiens-les !
Antoine regarda Jean, puis la cohue qui touchait presque à la ferme.
Ah, ils vont au château ! Reprit-il. C'est bien, on les retiendra.
Jean pressa la main du fermier et se retira par une porte qui donnait sur la forêt. La foule des paysans envahit le bord du plateau et vint se briser comme la marée autour des bordes.
« Du pain ! Du pain ! » criait-elle.
Antoine fit ouvrir toutes les portes.
« Si vous avez faim, dit-il, prenez et mangez !»
Une partie de la colonne entra dans les enclos et la cour et se rua partout, dans les granges, dans les celliers, dans l'office, courant de chambre en chambre et des caves au grenier. Quand les pillards se furent répandus de tous côtés, Jean fit appeler Antoine par un de leurs frères. « Maintenant qu'ils ont de l'occupation pour quelque temps, lui dit-il, prends un cheval et cours au galop jusqu'à Amboise. Tu préviendras la gendarmerie et tu la conduiras au château. » Profitant du tumulte, Antoine tira un cheval de l'écurie, le monta à poil et partit sans que personne prît garde à sa fuite. Pendant ce temps, on ramassait tout le pain qui se trouvait dans la huche, et ceux des pillards qui étaient dans la ferme le jetaient à ceux qui étaient dehors. Il passa de main en main, on le brisa, et les morceaux tombèrent sur le sol, où on les foula aux pieds. Des tonneaux tirés des celliers furent roulés dans la cour, percés et vidés en quelques instants. On faisait passer les verres et les brocs parmi la multitude, et la moitié du vin était répandue. On trouva dans la grange des sacs de farine et de blé. Enlevés au milieu des cris et du tumulte, ces sacs, précipités du haut des fenêtres sur la cour, s'éventrèrent en tombant. La foule, qui demandait du pain, eut bientôt pétri la farine et le blé sous ses pieds. Jean, abrité derrière un taillis, regardait tout sans être aperçu. Mais, après s'être arrêté un instant au bord comme un flot que barre une digue, la partie la plus considérable de la colonne s'écoula sur le plateau.
« Au château ! Au château !» crièrent quelques voix. « Au château !» répéta la foule.
Entraînés par l'élan, les bandes qui remplissaient les communs, la cour, les dépendances de la ferme, sortirent de tous les côtés à la fois et regagnèrent la colonne en courant.
« Au château »
criait-elle en passant devant le braconnier. Les plus ivres étaient les plus furieux. Ceux-ci gesticulaient et hurlaient d'horribles imprécations en brandissant des pelles, des râteaux, des pics, arsenal d'instruments aratoires enlevés aux bordes.
« Mort aux accapareurs »
criait-il. Jean quitta le taillis, et courant le long de la forêt, il atteignit Rocheblanche presque aussi vite que les pillards auxquels il se mêla. Lorsque Clairette était partie sur l'ordre du braconnier, M. de Puiseux n'était malheureusement pas au château. Il n'y rentra que peu de temps avant que la colonne se fût répandue dans les champs. Clairette, qui tenait toujours son enfant dans ses bras, courut à lui et répéta, mourante de frayeur, ce qu'elle avait été chargée de dire. Le nom de Jean revint fatalement dans ce récit.
« Encore ?» dit M. de Puiseux.
« Monsieur Jean devrait pourtant bien savoir que je n'aime pas les avis. » Et comme Clairette restait devant lui, bouche béante,
« Eh bien, qu'est-ce après tout »
reprit-il.
« Une bande de désœuvrés court la campagne en demandant du pain. »
« Ils ont peut-être une demi-douzaine d'ivrognes pour capitaine. Ne voilà-t-il pas de quoi s'effrayer ?» M. de Puiseux était entré au château par le côté du val et n'avait rien vu. Berthe, qui n'avait pas eu connaissance de l'entretien que Jean avait eu avec son mari, ne comprenait rien au tumulte qu'elle entendait. Cependant, l'avertissement que Clairette avait été chargée de transmettre à M. de Puiseux de la part de Jean lui causait une certaine inquiétude. Elle entraîna son mari vers l'autre façade du château, ouvrit une fenêtre et découvrit la multitude qui accourait sur le château chantant et vociférant. Elle pensa à ses enfants et pâlit. M. de Puiseux jugea à cette vue que le péril était plus sérieux qu'il ne l'avait cru d'abord. « Rentrez dans votre appartement, dit-il à Berthe, et restez auprès de votre père. Je vais recevoir ces gens-là et savoir ce qu'ils veulent. » M. de Puiseux ferma tranquillement la fenêtre et descendit au rez-de-chaussée du château.